Et si oui, comment ils y sont revenus? Et ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est aussi de voir quels sont les chercheurs chez qui la question de l'antisémitisme a fait une irruption. C'est-à-dire que ça n'était pas du tout dans leur parcours de recherche et que ces 5, 10, 15 dernières années, la question de l'antisémitisme a fait irruption. Un petit point toujours dans l'introduction, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera quasiment superflu, c'est quand même de rappeler quelques éléments de base par rapport à la situation qu'on observe. On s'exprime en France, qui est le lieu qui abrite la troisième population juive au monde, après Israël et les États-Unis. On estime, mais bon, on connaît bien les difficultés de cette évaluation chiffrée, qu'il y a peut-être 500 000, peut-être 600 000 juifs en France, avec toutes les difficultés qu'on a à effectuer ces évaluations. Et comme je le décris dans l'article sur la mesure de l'antisémitisme contemporain, il y a toute une série d'outils qui sont à notre disposition pour essayer d'évaluer l'antisémitisme contemporain. Et ces outils, c'est notamment ceux qui sont déployés chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui est cette structure qui va à la fois s'intéresser aux violences antisémites, c'est-à-dire aux actes qui sont répertoriés et qui concernent des biens ou des individus qui sont considérés comme juifs, en sachant que les actes tels qu'ils sont répertoriés par la CNCDH sont des actes qui sont automatiquement issus d'un dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une procédure policière et légale qui amène à pouvoir comptabiliser cet acte comme un acte antisémite. Et dans l'article, je raconte notamment les différentes étapes qui ont mené à ce partenariat, à cette collaboration entre des organisations juives et les pouvoirs publics, la police, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, pour essayer justement d'arriver à une quantification commune de l'antisémitisme. Donc ça, c'est la partie sur le nombre d'actes. Et je ne vais pas vous apprendre qu'effectivement, ces 15 dernières années, on a pu observer que les actes antisémites étaient une composante très importante du total des actes racistes. Et que si on prend les actes antisémites sur la période 2000-2015, les actes antisémites sont toujours au minimum un quart du total des actes racistes, et à certaines années, ça monte jusqu'à deux tiers. Et j'imagine que vous connaissez aussi toutes les difficultés qu'on a par rapport à comment on quantifie les violences qui touchent des minorités, puisque dans un certain nombre de cas, on peut estimer que l'augmentation du nombre de recensions est aussi, ça peut être l'expression du fait que la violence est plus forte, et ça peut aussi être en partie le reflet d'une plus grande efficacité de la part notamment des services de police, tout simplement au fil du temps, les services de police ont été formés à enregistrer des plaintes avec la dimension antisémite, et effectivement, ça signifie une formation, une collaboration, et qu'il y a assez souvent l'argument qui est avancé que pour d'autres groupes minoritaires qui ont une histoire, une sociologie assez différente de celle des Français juifs, on pense qu'il y a une sous-estimation ou une sous-déclaration des violences, et c'est généralement ce qu'on considère, même si on est incapable d'évaluer effectivement l'angle mort des non-déclarations pour les personnes qui subissent des violences, et ces personnes étant noires, maghrébines ou musulmanes. Mais toujours est-il qu'on a quand même ce bloc-là qui est la très forte proportion d'actes antisémites parmi le total des actes racistes. Et on a aussi la nature évidemment des actes, puisque quand vous regardez les statistiques de la CNCDH, vous avez d'un côté ce qu'on appelle les menaces. Et donc les menaces, ça peut être effectivement tout ce qui est courrier, et en plus en particulier aujourd'hui les courriers électroniques, ce qui fait que statistiquement, évidemment, des dizaines ou des dizaines d'emails antisémites envoyés à des organisations juives peuvent comme ça jouer un grand rôle dans les chiffres qu'on observe. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les actions. Et donc ça, effectivement, c'est des actions violentes. Ça va être un jet de cocktail Molotov contre une synagogue, ça va être des agressions physiques contre des personnes qui sont identifiées comme juives. Et ça inclut évidemment les assassinats et donc les attaques terroristes, à la fois celles commises par Mohamed Merah ou celles commises par Hamedi Coulibaly. Et la CNCDH, comme vous le savez, chaque année, il y a aussi une partie opinion publique. C'est important d'y revenir, même si ça peut, pour beaucoup d'entre vous, vous sembler assez connu. Je pense que c'est très important parce qu'on verra à quel point, pour beaucoup de sociologues, il y a cette grande difficulté à voir comment articuler la dimension, les actes observés et l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, elle est donc sondée chaque année par la CNCDH avec une série de questions pour essayer de mesurer le degré d'acceptation dans la société française d'un certain nombre de groupes, et de groupes qui d'ailleurs ne sont pas forcément minoritaires. Parce qu'il y a une question notamment qui est posée, que je trouve à la fois intéressante, et je me demande au fond ce qu'elle signifie, qui consiste à... On interroge les gens, donc on interroge un échantillon représentatif de la population française, et on demande aux gens, je vais vous citer à chaque fois un groupe dans la société française, et je vais vous demander si vous considérez qu'ils sont des Français comme les autres. Et donc cette question est posée, considérez-vous que les Juifs sont des Français comme les autres? Considérez-vous que les Noirs sont des Français comme les autres? Et la question est aussi posée, par exemple, considérez-vous que les catholiques sont des Français comme les autres? Voilà. On pourra s'interroger sur les catholiques forment-ils aujourd'hui ou non un groupe minoritaire. Et ce qu'on observe, c'est que parmi ces groupes, si on met les catholiques à part, parmi ces groupes, les Juifs constituent le groupe où la réponse qui dit « ils sont des Français comme les autres », le taux de réponse est le plus élevé comparé à toutes les autres minorités, comparé aux Noirs, comparé aux Maghrébins. Sachant qu'en plus, il y a des items dans les questions qui sont posées qui évoluent évidemment avec le temps. C'est-à-dire que il y a 15 ou 20 ans, la CNCDH ne posait la question que par rapport à maghrébins, arabes ou nord-africains, et qu'aujourd'hui, il y a la catégorie musulmans. Et il y a aussi aujourd'hui, par exemple, une question qui est posée par rapport aux Roms, et cette question n'était pas posée il y a 15 ou 20 ans dans les enquêtes de la CNCDH. Et c'est ça qui amène la CNCDH à dire dans son rapport de l'année 2013, si je ne me trompe pas, que les Juifs forment la minorité la plus acceptée en France. Et là, il y a quelque chose qui est, je pense, c'est pas nécessairement ni une contradiction ni un paradoxe, mais il y a une tension entre le fait que, pour dire les choses un peu brutalement, les Juifs sont la minorité qui est statistiquement victime de la violence la plus meurtrière, et à la fois, dans l'opinion publique, la minorité qui est la plus acceptée, à la fois en termes d'appartenance à la société française, mais aussi politiquement, parce qu'une autre des questions qui était posée comme ça chaque année est de savoir est-ce que des gens seraient prêts à voter pour un candidat à l'élection présidentielle si cette personne avait une identité juive. Et d'observer que le taux, au fil des années, puisque ce sondage-là était même fait avant même que la CNCDH existe, et que ce taux a effectivement baissé, passant de près de 40% après-guerre à un taux, une sorte de socle qui est autour de 9 à 10%. Et là, on voit bien aussi dans l'approche qui est celle de ces enquêtes d'opinion, qui sont essentiellement d'ailleurs étudiées, analysées et interprétées par Nona Meyer, c'est analyser l'acceptation politique d'un groupe dans la société française et essayer de voir quelles sont les grandes tendances majoritaires qui s'en dégagent. Et je trouve que ça fait à la fois la force de ces outils-là, parce que ça permet de les étudier sur une très longue durée. Ça permet effectivement de voir quelles sont les dynamiques majoritaires dans la société française, de la même façon qu'on demande aux gens « est-ce que vous pensez qu'il faut réprimer des agressions ou des insultes antisémites ?» Donc ça permet de voir ce qui est considéré comme licite ou illicite, acceptable ou inacceptable. Et en même temps, on voit bien que cette grille d'analyse, elle est vraiment héritière, je trouve, moi, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et la question, et je n'ai pas de bonne réponse, c'est qu'on voit bien la difficulté qu'il y a à qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces chiffres et comment est-ce qu'on les met, comment on les fait dialoguer, comment on les articule avec degré de violence qu'on peut observer. La CNCDH a aussi fait à un autre moment une enquête qui m'a semblé particulièrement intéressante, même si je n'ai pas réussi à obtenir suffisamment d'informations dessus, qui est une enquête pour savoir quelle était la perception dans la société française de l'antisémitisme contemporain. Là, on n'a pas quelque chose qui est exactement chiffré, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, des enquêtes qui cette fois-ci sont qualitatives avec des entretiens, et la CNCDH concluait que dans l'opinion publique française, y compris après les assassinats commis par Mohamed Merah, il y avait la forte perception que l'antisémitisme était quelque chose qui était de l'ordre du passé, de l'ordre du révolu. Et là, je pense que ça se rattache, et on retrouvera ça aussi beaucoup dans le discours d'un certain nombre d'acteurs des sciences sociales, ça se rattache aussi à la perception de l'antisémitisme comme étant essentiellement une articulation politique et une articulation, c'est-à-dire en sens d'un rejet d'un groupe sur des bases politiques, le fait de le rejeter en dehors de la société et de percevoir, et là c'est aussi en fait très lié au discours antisémite du Front National, notamment dans les années 80 et 90, de percevoir l'antisémitisme comme existant principalement comme la suite ou un héritage ou un retour ou une survivance discours et des pratiques qui pouvaient être celles de l'extrême droite française et particulièrement héritière du régime de Vichy. Et toute la difficulté et tout le paradoxe, c'est comment essayer d'articuler ça avec à la fois ce degré de violence et notamment pour celles et ceux qui ont pu assister et participer aux différents séminaires qu'il y a eu l'année dernière, les nouvelles configurations de l'antisémitisme autour de la mouvance de Dieudonné et d'Alain Soral. Alors, il y a des gens qui travaillaient depuis des années sur la question de l'antisémitisme et qui, depuis 2000, ont publié un nombre très grand de livres sur ces questions-là. Quelqu'un comme Pierre-André Taguieff a publié au moins, là, depuis 2000, une dizaine de livres consacrés à ce thème. Et évidemment, ce serait assez malhonnête si je disais, tiens, le monde des sciences sociales ne parle pas de l'antisémitisme, parce qu'on pourrait me dire, ah oui, mais attendez, il y a tous les livres qui sont rédigés par Pierre-André Taguieff, dont un très grand nombre, d'ailleurs, sont publiés au CNRS Éditions. On peut bien sûr en parler, mais moi, ce qui me semblait intéressant, c'est essayer de voir chez qui est-ce que cette question de l'antisémitisme, justement, elle a fait éruption, parce qu'au sens où, chez Taguieff, je trouve qu'il y a une continuité dans le discours, qui c'est pas que ça rend les choses moins intéressantes, mais ça fait qu'en termes d'études, de voir quelle tension ça suscite, ça me semble beaucoup moins pertinent. Ce qui est frappant, par exemple, c'est à quel point Taguieff, dans toute une partie de la sociologie française, est uniquement devenu un effet négatif, c'est-à-dire qu'il va uniquement être cité pour être disqualifié, et j'en parlerai un peu après. Je pense qu'il y a un élément qui est là absolument central et qu'on peut pas éviter, qui est évidemment la question de comment est-ce que les gens articulent leur réflexion sur l'antisémitisme contemporain avec la question d'Israël. Et on verra que c'est à la fois central, mais vous avez des sociologues qui vont dire, ben, dans l'étude que je peux faire de l'antisémitisme contemporain, je considère que la question d'Israël est en fait secondaire. Je reviendrai par exemple sur ce que dit Didier Lapéroni, qui est assez intéressant, je trouve, là-dessus. Et vous en avez d'autres qui vont dire que ça fait partie de cet ensemble-là, mais qui auront une acceptation, enfin une vision très différente. C'est-à-dire que chez Pierre-André Taguieff ou chez Shmuel Trigano, il y a l'idée centrale selon laquelle la délégitimation, j'emploie leur terme, hein, la délégitimation d'Israël, la diabolisation d'Israël et l'antisémitisme contemporain tel qu'il se développe en France font partie d'un même ensemble, d'une dynamique qui est transnationale, qui est planétaire, et donc qui vont considérer que finalement, dans les violences qui peuvent être perpétrées par des groupes palestiniens, il y a des dimensions idéologiques et religieuses qu'on va pouvoir retrouver dans un certain nombre d'acteurs de l'antisémitisme en France. Mais vous allez avoir d'autres acteurs qui vont étudier ça et qui vont dire, effectivement, la question israélienne, elle est centrale, mais justement, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'un antisémitisme au sens de l'antisémitisme classique. Et si je prends plusieurs sociologues qui se sont exprimés sur ces questions, je pense à quelqu'un comme Je pense à quelqu'un comme Laurent Mucchielli, je pense que c'est aussi le cas pour Raphaël Liogier, c'est le cas pour d'autres sociologues que je vais citer, c'est de mettre en avant quelque chose qui a souvent été souligné par la CNCDH, qui est de dire, on voit effectivement que les pics de violence antisémites correspondent assez souvent à des aggravations de la configuration israélo-palestinienne. Et c'est tout à fait vrai pour ce que la CNCDH appelait l'explosion des actes antisémites de l'année 2000, c'est-à-dire fin septembre et octobre 2000, c'est-à-dire le début de la seconde intifada. Et on revoit cette correspondance à d'autres moments, on le voit notamment en mars et en avril 2002, donc au moment où il y a une grande vague d'attentats suicides en Israël et il y a ce qu'on appelle l'opération Rempart, donc la réoccupation par l'armée israélienne des territoires autonomes palestiniens en Cisjordanie. Et évidemment, on a vu ça aussi pour les deux guerres de Gaza, fin 2008, début 2009, et pour l'été 2014. Et en même temps, quand on regarde les chiffres maintenant sur 15 ans, on a bien vu aussi que, y compris quand il n'y a pas de phase haute de violence, on reste pourtant à un taux de violence antisémite qui reste au minimum deux fois plus élevé que celui des années 90, et que, si je puis dire, les violences antisémites, elles se sont aussi d'une certaine façon autonomisées du conflit israélo-palestinien. Et ce qu'on a pu observer ensuite, c'est que après des attentats antisémites, je pense aux attaques commises par Mohamed Merah à Toulouse et aussi contre l'hypercachère au mois de janvier, ces attentats-là et la résonance médiatique qu'ils ont, ensuite, on observe sur les semaines qui viennent une hausse considérable des menaces et des actes antisémites avec une sorte d'effet d'émulation, avec en fait concrètement des gens qui vont aller devant des écoles juives, crier « Vive Mohamed Merah », qui vont donner des coups de téléphone et faire des menaces et des choses comme ça. Donc quelque chose qui fait qu'on voit bien que l'articulation avec le conflit israélo-palestinien, elle est une des clés, mais il est certain qu'elle est insuffisante. Si on regarde les travaux de sociologie et les enquêtes de terrain qui ont pu être réalisées, on a le travail de Didier Lapéroni, qui n'était donc pas le cœur de son objet. Le cœur de son objet, c'était travailler sur ce que lui nomme les ghettos urbains, donc avec le livre « Ghettos urbains, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd'hui », livre publié en 2008, où il consacre une dizaine de pages du livre, effectivement, à l'importance du vocabulaire antisémite parmi les personnes avec qui il a pu s'entretenir dans un certain nombre de banlieues autour de Paris et aussi dans le sud-ouest de la France. Et lui, il définit donc ce qu'il perçoit être comme à la fois un antisémitisme sans juif, c'est-à-dire qu'il dit qu'il observe ce vocabulaire comme ça de l'impureté, de la saleté, ce vocabulaire négatif à l'égard des juifs, mais que c'est très souvent dans des environnements où il n'y a pas de juifs qui sont visibles, donc un antisémitisme sans juif. Et Didier Lapéroni exprime aussi, analyse selon lui, l'idée que c'est aussi d'une certaine façon un antisémitisme sans antisémite, au sens où quand ses interlocuteurs sont confrontés au fait que ce qu'ils disent est antisémite, ils vont pour la plupart d'entre eux dire qu'ils refusent cette appellation, qu'eux-mêmes ne sont pas antisémites, et donc il explique comment le discours antisémite permet comme ça de souder le groupe. Didier Lapéroni, il me semble intéressant au sens où il n'avait pas travaillé sur ces sujets-là par le passé, et que lui-même a reconnu qu'il avait été surpris parce qu'il avait dû constater à travers ses enquêtes dans les années 2000, que lui estimait que ce n'était pas en lien direct avec le conflit israélo-palestinien, qu'il le voit d'ailleurs à la fois dans le vocabulaire et dans la façon dont il a pu analyser les choses. Lui va même jusqu'à dire qu'ensuite, c'est la mobilisation d'une partie des gens avec qui il a pu s'entretenir sur la question israélo-palestinienne. Elle a d'abord comme source ce regard obsessionnel négatif sur les juifs et que ça ne s'opère pas dans l'autre sens. Et il montrait aussi un élément qui me semblait intéressant et qui joue, je pense, aussi pour les sociologues, qui consistait à dire qu'il voyait bien qu'il y avait un certain nombre de gens qui intervenaient dans ces quartiers-là, notamment les travailleurs sociaux, qui avaient beaucoup de mal ensuite à reconnaître cet antisémitisme puisqu'ils y avaient été confrontés. Ils voulaient bien le reconnaître en privé, mais ils se rendaient bien compte que s'ils mettaient les gens avec qui ils interagissaient dans certaines de ces banlieues, ils les mettaient face à l'antisémitisme de leur discours, il y avait l'idée qu'ils allaient se retrouver complètement exclus du groupe et qu'ils n'allaient plus pouvoir dialoguer avec des gens de ce groupe qui, en plus, appartiennent à des gens qui sont relégués socialement, qui sont discriminés. Et c'est ce qui fait aussi que Didier Lapeyronnie expliquait que cet antisémitisme, il n'était pas un antisémitisme tel qu'on analyse la plupart des autres formes de discrimination, puisque les gens qui avaient ce langage antisémite n'étaient pas du tout insérés institutionnellement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre des pratiques de discrimination antisémite. Et c'est un point qui me semble fondamental, c'est le caractère horizontal de l'antisémitisme, c'est ce qu'on l'observe depuis 15 ans. C'est-à-dire que c'est pas un antisémitisme qui peut s'identifier à une structure politique et à des structures sociales qui permettent de mettre en place des politiques discriminatoires. Et la grande majorité des sociologues qui s'intéressent aux questions de discrimination et de racisme analysent essentiellement des racismes qui ont des dimensions profondément horizontales. Et j'y reviendrai un peu après. Je pense que le fait que les Juifs ne soient pas, d'après les statistiques qu'on a, et je pense qu'elles ont de toute façon leurs limites, mais d'après les statistiques qu'on a, les Juifs n'étant pas victimes des discriminations au sens classique, c'est-à-dire qu'on n'observe pas, mais après il y a aussi le fait que le groupe juif est statistiquement restreint, donc ça rend beaucoup plus difficile l'observation de telles discriminations. On n'observe pas, et c'était déjà le cas à l'époque où la HALDE existait, puis les autres structures chargées de lutter contre la discrimination, on n'observait pas de plaintes déposées par des personnes qui s'identifiaient comme juives en disant qu'elles n'avaient pas pu accéder à du logement, à du travail ou à des loisirs parce qu'elles étaient juives. Alors que la quasi-totalité des gens qui travaillent sur les discriminations et sur les racismes étudient ce type de phénomène. Et le fait que les juifs ne rentrent pas dans cette case-là crée tout de suite, je pense, une sorte de perturbation par rapport à l'édifice scientifique et ou idéologique qui est construit, qui est de dire finalement est-ce que la violence horizontale, est-ce qu'elle forme une discrimination, est-ce qu'il peut y avoir une violence comme ça qui est horizontale et qu'on considère comme étant une discrimination. Et dans le vocabulaire c'est très frappant, parce que si vous regardez notamment l'enquête trajectoire et origine, l'enquête Théo, donc toute une série d'enquêtes sur les discriminations notamment pour les gens issus de l'immigration, la notion de discrimination est systématiquement assimilée à la dimension minoritaire. Et en fait, la dimension minoritaire, quasiment automatiquement, elle signifie parler de migrants postcoloniaux. Et là, on sait bien que, en fait, les Juifs sont à la fois dans plusieurs cases et dans aucune case. Parce que vous avez effectivement des Juifs qu'on pourrait considérer comme étant des migrants postcoloniaux. Alors après, il y a évidemment la diversité des statuts, les statuts légaux qu'avaient les Juifs dans les différents pays d'Afrique du Nord, le statut de ces différents territoires d'Afrique du Nord, et qui fait que, moi j'étais frappé, mais après je pense qu'il faut aussi se méfier de ça, c'est-à-dire que moi mon objet de recherche c'était évidemment la dimension antisémite, donc à chaque fois que je vais lire un ouvrage de sciences sociales, je vais me demander est-ce qu'il est question de l'antisémitisme, donc on voit bien aussi les propres paradoxes dans lesquels on se retrouve, mais dans le livre, par exemple, de Réjeanne Sénac, qui est donc une politiste qui étudie la question qui a travaillé à la fois sur les questions de genre et sur la question de la diversité, et sur l'usage du terme diversité, comment il s'est déployé à la fois dans l'environnement politique, scientifique et dans le monde de l'entreprise. Dans ce livre, qui fait 150 pages, à aucun moment, par exemple, il n'est question des Juifs. Il n'y a pas quelques lignes dessus, parce qu'en fait, et elle l'avait d'ailleurs expliqué, je crois que c'était au micro de Sylvain Bourmeau sur France Culture, elle avait dit, oui, la notion de diversité, la notion de personnes issues de la diversité, elle s'applique à ce qu'on appellerait des minorités visibles, et donc à des minorités généralement post-coloniales. Et là, je pense que ça renvoie à une autre question sur laquelle j'ai à la fois essayé de travailler, mais je trouve que ça reste encore imparfait, qui est le fait, et qui n'est jamais formulé comme tel, que les Juifs étant, d'après moi, perçus comme des Blancs, il y a quelque chose qui ne colle plus, en fait, en termes de cases. C'est-à-dire qu'en termes de cases, une grande partie des gens qui travaillent sur ces questions de discrimination et d'ethnicité, le fait que les Juifs ne rentrent pas, ne soient pas considérés comme une minorité visible, et vous regardez, en plus, toutes les études qui sont faites par le CSA, sur la question de la visibilité dans l'audiovisuel public, dans toutes ces questions-là, quand on parle de minorité visible, on considère donc, c'est ce que les termes sociologiques qu'on emploie, c'est le cas notamment pour les enquêtes d'Éric Massé ou d'autres, le terme qu'on dit, qu'on s'intéresse à la visibilité, à la présence médiatique de populations qui sont perçues comme noires, comme nord-africaines et comme asiatiques. Et donc là, automatiquement, bon, bah, effectivement, la question des juifs n'est pas là, et vu que tous ces champs de recherche ont été très profondément et très massivement investis par ces questions à partir de ces termes-là, et en plus, mon propos n'est pas de dire que ce n'est pas légitime. Je constate juste qu'en fait, ça amène à une situation où, par rapport à ce qu'on observe depuis 15 ans, c'est-à-dire ces formes d'antisémitisme, on est face à cette espèce d'angle mort, et face à cette difficulté de finalement, mais comment est-ce qu'on s'en saisit. Donc, on a le texte, on a le livre de Didier Lapéroni, avec une quinzaine de pages sur ce sujet, dont il a extrait ensuite quelque chose qui a été publié par une étude du CRIF, et ensuite ça a fait l'objet notamment aussi d'un article qu'il a publié dans un livre collectif. Donc ça fait à la fois un sociologue dont ce n'était pas l'objet principal, qui s'y est intéressé, qui donne en plus un certain nombre de grilles qui sont intéressantes. À ça s'ajoute aussi le livre collectif qui avait été dirigé par Michel Vivorca, qui s'appelle La tentation antisémite, donc livre publié en 2005, et une enquête qui est faite dans différents endroits en France en 2003-2004. C'est à Roubaix, c'est dans une prison, c'est à Sarcelles, c'est comme ça, c'est en Alsace. Mais finalement, si je puis dire, on était au début du phénomène, parce que l'enquête elle est faite en 2003-2004, elle amène l'équipe de chercheurs à constater qu'il y a ce qu'observe aussi Didier Lapéroni en termes de phénomène de ghetto, d'exclusion, et comment l'exclusion va amener à construire un autre discours d'exclusion à l'égard des juifs. Mais cette enquête, elle n'a pas amené en fait à d'autres travaux dans les 10 années qui ont suivi, ce qui fait qu'en fait finalement on a assez peu d'enquêtes de terrain et d'entretien sur ces questions-là. Et je trouve assez significatif, mais peut-être que je vais rentrer dans le French bashing, et pourtant j'ai un certain nombre de je suis sceptique parfois sur un certain nombre de choses qu'il a pu écrire. Moi, ça m'a frappé en fait que le premier livre qui traite précisément du sujet difficile à aborder, c'est-à-dire l'antisémitisme musulman, ça m'a frappé que le premier livre qui soit intégralement consacré à ça et qui soit sociologiquement basé sur des entretiens et des enquêtes soit d'abord quelque chose qui soit rédigé par quelqu'un qui n'est pas français et qui ne soit pas d'abord publié en français. Et que ce soit publié, si je ne me trompe pas, ça doit être cette année ou l'année dernière. Voilà, je suis bien obligé de regarder cet élément-là. Si on regarde comment d'autres sociologues ont traité de la question de l'antisémitisme, il y a un élément qui me semble particulièrement important, c'est la façon dont l'antisémitisme a fait irruption dans leurs travaux, mais irruption par rapport à leurs travaux qui essentiellement avaient trait à l'islamophobie. Et là, on voit bien une question particulièrement difficile, qui est ces discours sur des contre-mobilisations. Je m'explique. Vous lisez le livre de Abdelali Hadjat et Marwan Mohamed, Islamophobie, la fabrique du problème musulman par les élites françaises. Vous avez un moment, quelques pages, effectivement, sur les structures, les institutions, les intellectuels qui se sont mobilisés contre l'usage du terme islamophobie et, selon Abdelali Hadjat et Marwan Mohamed, qui, en fait, ont refusé de voir les actes qui visaient des personnes musulmanes, qui ont visé des mosquées et qui ont refusé de voir cette violence-là. Et dans ce livre, ils disent notamment que les institutions juives comme le CRIF se sont mobilisées contre l'usage du terme islamophobie. Et dans ce livre, ils vont notamment citer le petit livre que je cite aussi dans l'article, qui est ce livre d'Alain Badiou et Eric Hazan, qui s'appelle « L'antisémitisme partout », et qui est un livre qui explique que l'usage du terme antisémitisme ces 15 dernières années a d'abord été utilisé pour essayer de faire taire les critiques d'Israël. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que cette accusation d'antisémitisme, elle a aussi été utilisée pour discriminer la jeunesse noire et maghrébine française. Et ce thème-là, on le retrouve assez régulièrement dans des textes d'autres sociologues. Je pense à un sociologue comme Laurent Mucchielli, qui travaille à Aix-en-Provence, qui a publié énormément sur la question des statistiques de la délinquance, sur la perception médiatique d'un certain nombre de formes de violence, et qui, et là c'est très intéressant en termes de vocabulaire, en 2004, il écrit un article qui s'appelle « Islamophobie, une myopie intellectuelle ». Et il s'interroge sur est-ce qu'il y a une difficulté pour les élites intellectuelles, pour le monde universitaire français, à regarder cette question de l'islamophobie. D'une certaine façon, on voit un peu les effets miroirs qui s'effectuent là. Et dans sa démonstration, il dit que les discours, notamment portés par Pierre-André Taguieff, qui visent à dire que les auteurs des actes antisémites sont en grande partie des jeunes issus de l'immigration maghrébine, il dit « c'est un mésusage du terme antisémitisme », puisqu'il dit « il faut avant tout regarder la concordance en termes de temps entre ces actes et l'actualité proche-orientale ». Et donc il va dire « ces violences, effectivement, elles se dirigent contre des juifs », mais ces violences, il ne faut pas les qualifier d'antisémitisme, il ne faut pas parler de retour d'antisémitisme, parce que ce n'est pas un antisémitisme articulé, parce que ce n'est pas un antisémitisme politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'a été l'antisémitisme européen dans l'histoire. Et donc en 2004, il disait qu'il fallait mieux parler d'israélophobie, voire simplement de charonophobie, donc comme opposition à Laurent Mukieli, à la politique d'Ariel Sharon. Il redit ça dans un autre article en 2009, et il dit que, à propos de l'augmentation des actes antisémites au moment de la guerre de Gaza de fin 2008, début 2009, la forte augmentation du nombre d'actes antisémites recensés au mois de janvier 2009 est un fait. Donc on n'est pas dans le discours qui consisterait à dire les actes ne sont pas vérifiés, ils sont exagérés, etc. Donc il y a reconnaissance de ces faits-là, mais qui ne traduit pas un quelconque retour de l'antisémitisme. Elle a une explication conjoncturelle bien précise, de point la guerre de Gaza, et ceci n'est pas nouveau du tout, le même phénomène ayant déjà été observé au cours de la deuxième intifada en 2000. Et donc c'est la contestation du terme antisémitisme autour de l'idée que le terme antisémitisme, il a une histoire, il est quelque part marqué au fer rouge par l'histoire européenne et par l'histoire et par la Shoah, et donc l'employer aujourd'hui serait impropre. Concernant Laurent Mukieli, il y a après une autre réalité, c'est qu'il s'est donc exprimé comme ça régulièrement sur ce thème, mais qu'après janvier 2015, il a continué de s'exprimer, notamment après les attentats sur Charlie Hebdo, sur l'hypercachère, sur les questions des discriminations, de racisme et tout ça. Mais comme à ce moment-là, il devient difficile de considérer que ces violences-là sont liées avec l'actualité du conflit au Proche-Orient, puisque janvier 2015, il n'y a pas évidemment, la situation israélo-palestinienne est tout sauf bonne, mais il n'y a pas une violence qui permet d'expliquer ça. Simplement, en fait, il n'en parle plus. Donc là, on passe à l'angle mort. Et c'est-à-dire qu'il y a notamment des textes qu'il écrit après Charlie Hebdo, où il s'interroge sur toute une série de dimensions. Il parle des attaques des 7, 8 et 9 janvier. Donc on pourrait dire, bah, tiens, 9 janvier, effectivement, il ne dit pas qu'il ne s'est rien passé à l'hypercachère. Mais simplement, en termes de grille explicative, bah, quelque chose là ne peut plus tenir. Donc comme ça ne peut plus tenir, ben effectivement, il n'en est simplement plus question. Et on peut observer ça chez d'autres sociologues qui s'intéressent beaucoup aux questions des discriminations et des racismes. Je pense aux différents livres, aux différents textes qui ont été publiés par Eric et Didier Fassin, où la question de l'antisémitisme, elle est simplement absente. Donc vous regardez le livre de la question sociale à la question raciale, assez perturbant, parce qu'en plus, il y a un chapitre sur la dénégation. Il y a un chapitre qui dit comment se fait-il que des fois, on n'arrive pas à voir ce qu'on ne veut pas voir. Comment se fait-il qu'on ne veuille pas voir une série de discriminations, une série de racismes, une série de violences. Et le livre est publié une première fois en 2006, il est republié en 2009. Alors effectivement, il est publié avant les assassinats commis par Mera et tout ça, mais il est commis dans des situations où si on ouvre un rapport de la CNCDH, on voit quand même quelque chose. On voit effectivement le nombre important des violences antisémites, on voit en plus la nature de ces violences-là. Donc il y a un petit texte dans le livre qui traite de l'importation du conflit israélo-palestinien, qui est écrit par un philosophe, et qui s'interroge plus sur les notions de communauté, mais il n'est aucunement fait mention de la notion des violences, de leur nombre, et donc il y a là un non-recours complet aux chiffres de la CNCDH. Donc, on peut avoir une première stratégie discursive qui consiste à dire, certes ces chiffres existent, mais ce n'est pas de l'antisémitisme parce que c'est en lien avec le conflit israélo-palestinien. Il y a une autre posture discursive qui consiste à dire ben, on peut en parler, mais on ne va pas avoir recours aux chiffres. Et il y a un autre exemple frappant dont on a parlé juste avant, qui est le cas de Raphaël Liogier dans son livre qui s'appelle « Le mythe de l'islamisation ». Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est aussi un peu dans une espèce de danse terrible, où il y a cette espèce de posture selon laquelle, à partir du moment où on écrit sur l'islamophobie, sur les violences contre les musulmans, des violences physiques ou des violences symboliques, il y a cette espèce d'automaticité, de lien qui amènerait à devoir minorer, relativiser l'importance des violences antisémites. Puisque, dans les quelques lignes qu'il écrit sur cette question-là, dans son livre Le mythe de l'islamisation, Raphaël Liogier écrit qu'on observe une baisse ces 10 dernières années des actes antisémites. Alors là, finalement, voilà, on est juste dans une lecture complètement contraire des chiffres tels qu'ils sont expliqués. Et dans ce passage-là, en fait, Raphaël Liogier cite lui aussi Éric Hazan et Alain Badiou en disant « Le discours sur l'antisémitisme, tel qu'il a été développé et par les institutions juives et par Pierre-André Taguieff, est avant tout un discours qui vise à essayer de criminaliser une certaine partie de la jeunesse française ou à empêcher la critique d'Israël. » Je pense que là, on voit bien en fait finalement les quelques nœuds qui se posent. Et les nœuds qui se posent, en fait, c'est à la fois cette notion de l'impossibilité de savoir où placer les Juifs dans ces nouvelles dichotomies qui sont très présentes dans le discours sociologique, c'est-à-dire être membre ou issu de la diversité ou des minorités visibles ou ne pas en être, et savoir où est-ce qu'on place les Juifs dans cette catégorie-là, et qu'à partir du moment où ils ne rentrent pas dans la catégorie minorité visible, en fait, ils ne sont simplement pas dans la grille d'analyse, et ça se voit vraiment quand on lit les différentes enquêtes publiées autour de la question des minorités visibles, dans l'enquête Théo et d'autres dimensions comme ça. La difficulté de savoir comment articuler cette acceptation politique des Juifs, qui permet de dire, ben regardez, en plus, effectivement, l'acceptation politique des Juifs, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était juste après la guerre. Et donc, comment faire avec comment on articule ces taux de violence et cette acceptation politique? Je pense que la relation à l'État aussi, elle est extrêmement importante. Au sens où, notamment, la violence, elle est horizontale, mais en plus, les Juifs sont perçus, et par certains aspects, je pense à juste titre, comme étant un groupe dont l'organisation communautaire est reconnue, et légitimé, et un groupe qui est dans une relation verticale avec le pouvoir politique. Et cette relation verticale, elle s'exprime de façon particulièrement nette et visible chaque année au moment du dîner du CRIF. Et là, en plus, ça amène à l'autre élément de la complication, qui est le fait que c'est une hypothèse, elle est imparfaite, hein, mais l'hypothèse aussi que les discours qui ont dénoncé l'antisémitisme et la hausse de l'antisémitisme au début des années 2000 et ensuite, ont très souvent été portés à la fois par des structures, notamment comme le CRIF, ou par des universitaires, je pense ici à Pierre-André Taguieff, qui vont articuler le fait qu'ils vont défendre la plupart des politiques menées par Israël et qu'ils vont aussi articuler ça avec leur condamnation pour l'antisémitisme. Donc, dans une certaine mesure, je me demande si, pour une série de sociologues, il n'y a pas eu aussi ce côté réactif de dire, pour ne pas être associé avec le discours du CRIF ou pour ne pas être associé avec le discours de Pierre-André Taguieff ou d'autres, je vais essayer de contrer ces discours-là. Et c'est en ça que je voulais aussi commencer par Emmanuel Todd. Peut-être que je mène une croisade un peu vaine parce que je pense que ça mérite vraiment d'être creusé, le fait qu'il ait écrit ça. Et après, en plus, dans le livre, tous les quelques pages, cette question est là. Et j'ai été frappé, notamment, dans le livre, un peu plus loin, il écrit, et c'est dans l'introduction de Qui est Charlie, hein, il écrit « La vraie question pour la France, ce n'est pas le droit à la caricature, c'est la montée de l'antisémitisme dans les banlieues. » Il écrit ça, noir sur blanc, dans le livre. Et il est évident qu'il avait donné à peu près tous les arguments possibles pour que les gens ne veuillent pas l'écouter, ou même s'ils achètent le livre, qu'ils ne veuillent pas le lire ou qu'ils ne veulent pas l'entendre. Parce qu'il avait commencé de toute façon à plus ou moins insulter tous les gens qui avaient manifesté le 11 janvier. Donc c'est sûr que ça ne permettait pas, ça mettait pas les gens, je pense, dans une disposition d'écoute extrêmement nette. Mais ce qui est frappant, c'est que, y compris chez celles et ceux qui sont ensuite allés à la défense de Todd par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ses cartes, par rapport à l'analyse du 11 janvier, tous ces gens ont effectivement complètement effacé l'aspect l'étude qu'il amène sur l'antisémitisme. Et il y a une autre phrase qui a juste été soulevée dans un seul article que j'ai vu, qui était un article d'ailleurs, un article de Joseph Confavreux dans Mediapart. Il m'arrive de lire Mediapart, hein, voilà, c'est comme ça. Qui soulignait une autre phrase dans le livre de Todd, où Todd dit qu'il a constaté, je cite, « la relative indifférence du monde laïque dominant à la montée de cet antisémitisme ». Et après, ce que j'ai pu voir, c'est quand on regarde des vidéos sur Internet, quand Todd va présenter son livre, avec les gens, effectivement, qui ont pu le soutenir. Et donc là, on rejoint évidemment une galaxie politique, associative, idéologique, hein, dont d'ailleurs j'ai pu être proche à différents égards. Hein, donc je pense à des gens du monde diplomatique. Et évidemment, là, à ce moment-là, Todd ne va jamais revenir sur cette dimension-là de son livre. Et les gens qui l'ont invité ou n'ont pas vu ça dans le livre, ou de toute façon, ne veulent pas revenir sur cette question-là. Donc on voit là aussi l'importance des alliances politiques qui se nouent. Et je vais conclure avec un... Il y a une autre personne parmi les deux post-janvier 2015 qui disent « Je n'ai pas vu quelque chose et je m'interroge sur pourquoi je n'ai pas vu ». Il y a Emmanuel Todd et puis il y a un petit livre que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui est le livre de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet, où c'est l'autre occurrence où j'ai vu, même si, après on peut identifier qui écrit quoi en fonction des passages, etc., mais il y a un assez long passage sur l'effroi qui saisit le narrateur le 9 janvier 2015, donc au moment de l'attaque de l'hyper-cacher, où Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet disent... Je réalise avoir sous-estimé les précédents et en particulier leur dimension clairement antisémite, jusque et y compris les meurtres de Mohamed Merah en 2012. Et je réalise que je ne veux pas voir que ça revient. Alors on voit bien en plus cette espèce de thématique qui, je pense, à beaucoup d'égards, nous bloque un peu dans la compréhension des choses, à essayer de penser en termes de retour de l'antisémitisme, puisque... Et c'est aussi d'ailleurs un vocabulaire qui a souvent été porté par les organisations juives ou par un certain nombre d'intellectuels, par moments par Alain Finkielkraut ou d'autres, qui est que il est certain qu'à partir du moment où des références sont faites à la nuit de cristal, au pogrom et à tout ça, évidemment, le discours sera de dire ben non, ça n'a rien à voir. Parce que notamment, j'en reviens à la question de l'État, l'État est depuis des années, il me semble, et notamment moi à travers les entretiens que je fais au ministère de l'Intérieur, complètement conscient des différentes formes d'antisémitisme, de leur violence, etc. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que ça joue aussi pour une partie des sociologues, c'est qu'une minorité qui est à la fois acceptée politiquement et qui en plus, dont les violences qu'elle subit sont reconnues par l'État et l'État lui apporte protection, secours, etc., est-ce que c'est toujours une minorité ? Est-ce que ça peut toujours former une minorité qu'on peut considérer comme fragilisée et qui est donc digne d'intérêt dans le tableau qu'on dresse de la France contemporaine ? Puisque il y a pour beaucoup l'idée que les choses s'articulent d'abord, un, en termes de postcolonial, et donc de postcolonial avec l'idée que l'État il garde sa dimension coloniale, y compris dans ses pratiques de discrimination aujourd'hui, et puis l'idée qu'il y a un racisme d'État, et notamment sur la question des Roms. Et donc comment est-ce qu'on peut articuler l'idée qu'il y a un racisme d'État par rapport aux questions des Roms, et puis de l'autre côté, qu'il y a un groupe qui soit ciblé mais horizontalement, et qui à la fois est la protection et la protection de l'État. Il y a je voulais citer deux personnes, d'abord un sociologue anglais qui me semble-t-il a un peu mis le doigt là-dessus, c'est Ben Gidley, qui a notamment écrit un papier en anglais assez intéressant sur comment la communauté juive en Angleterre essaye de repositionner son discours dans les années 2000 sur la question du multiculturalisme, c'est-à-dire comment une minorité comme les Juifs, comment ils avaient construit un discours autour de la pleine appartenance à la société anglaise à l'époque où la société anglaise, il y avait un bloc majoritaire clairement identifié, et comment dans une dimension multiculturelle, le discours juif a essayé de se repositionner en termes d'appartenance et de sécurité. Et il écrit... Not only have Jews often been suspicious of multicultural discourse, scholars interested in multiculturalism and minority issues in Britain have rarely considered the Jewish experience. Donc le fait que les universitaires qui se sont intéressés au multiculturalisme et aux questions minoritaires en Grande-Bretagne se sont rarement intéressés au cas juifs et que la plupart des gens s'intéressant aux juifs ou aussi la communauté juive se sont toujours montrés très suspicieux. Et là, on pourrait renvoyer à toute une série de questions par rapport à l'émancipation des juifs concernant le discours multiculturel et notamment cette clé sur comment s'articulent les choses en termes de perception de l'antisémitisme, relation à l'État, relation à la question israélo-palestinienne et comment ça s'articule avec les discours post-coloniaux. Il y a quand même un sociologue et un sociologue qui, en termes en plus de galaxie politique et si je puis dire un petit peu un ovni, qui est quelqu'un comme Philippe Corcuff, qui est sociologue, qui enseigne à l'Institut d'études politiques à Lyon, qui se définit comme libertaire, comme anarchiste et comme bourdieusien. Et lui, à travers une série de tribunes depuis une dizaine d'années, a toujours mis en avant, tout en lui, il emploie le terme islamophobie, il reconnaît ce genre de dimension-là, donc il pourrait être en désaccord avec toute une série d'autres personnes qui travaillent sur l'antisémitisme, mais il a systématiquement insisté sur la réalité des violences antisémites contemporaines et sur la difficulté de tout un champ associatif et universitaire à reconnaître ça. Et il l'a notamment fait dans un article qu'il a mis en ligne cet été sur un groupe qui est à la fois extrêmement restreint du point de vue du nombre et extrêmement important en termes d'audience, on va dire, médiatique qu'il peut obtenir. Et je pense au Parti des Indigènes de la République, d'accord ? C'est-à-dire en réalité, je pense qu'on parle peut-être d'une trentaine de personnes hein, autour d'Ouria Boutelja, mais une visibilité médiatique qui va des manifestations organisées en passant par Ce Soir ou Jamais, mais qui fait partie de l'arc du champ politique et intellectuel quand on s'intéresse à ces questions-là. Et Philippe Corcuff, qui avait signé l'appel des indigènes de la République en 2005, qui s'était vu un peu comme un compagnon de route, a au fur et à mesure pris ses distances avec eux. Et dans l'article qu'il écrivait sur les indigènes de la République, il écrivait: un des terrains où cet angle unilatéralement colonial est particulièrement actif est celui des rapports entre les racismes et antiracismes. Et il dit, il y a tout particulièrement pour les indigènes de la République une difficulté à donner une place à l'antisémitisme. Cela s'est notamment exprimé lors de l'assassinat d'Ilan Halimi, des crimes de Mohamed Merah ou des meurtres antisémites de janvier 2015. Et il dit, on pourrait dire que l'engagement des indigènes de la République contre l'antisémitisme est explicite, parce que c'est vrai que les indigènes de la République disent toujours qu'ils sont contre l'antisémitisme, etc. Mais qu'en même temps, ils ne savent pas trop quoi en faire à partir du moment où ils optent pour l'axe colonial dans leur approche du racisme, ce qui les conduit à ne pas réagir clairement sur le plan de l'antisémitisme face à des événements antisémites graves. Donc là, je trouve qu'il présente aussi bien cette espèce de situation où cette dimension coloniale, elle est à la fois nécessaire et utile pour analyser toute une série de discriminations, et nécessairement, quand on en vient à la question des juifs, elle place face à une impasse. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et en conclusion, je dois constater la difficulté qu'il y a à aller au-delà en fait, de l'exposé de cette cartographie-là. Et je le vois particulièrement en ce qui me concerne, parce que je suis convaincu que je suis convaincu que les travaux, par exemple, de Pierre-André Taguieff, que j'ai pu trouver régulièrement intéressants, je considère qu'il a vu des choses qu'un certain nombre de gens ne voulaient pas voir dès le début. Dès 2002, il écrit dans La Nouvelle Judéophobie que voilà, il constate que beaucoup d'associations, beaucoup de groupes ne veulent pas voir un certain nombre de choses. En même temps, moi, je suis très sceptique sur l'articulation qu'il fait avec la dimension israélienne. Je pense qu'évidemment, elle est là, mais chez lui, elle s'accompagne d'un chèque en blanc à l'égard d'Israël que non seulement je ne partage pas, mais je pense qu'il ne nous permet pas en plus d'articuler de façon intelligente les choses. Et puis j'ai bien peur qu'au bout d'un moment, de toute façon, Pierre-André Taguieff ne s'adresse plus qu'aux personnes qui sont déjà d'accord avec lui ou aux gens qui le lisent déjà. Donc après, on peut peut-être le regretter, mais c'est quand même une dimension par rapport à ce qui est écrit qui, sur laquelle il faut s'interroger. C'est-à-dire que s'il en est au 10e livre, qui en plus reprend un peu déjà ce qui était dit avant, et où on expose toutes ces dimensions-là, bon, c'est bien que quelque chose a raté, quoi. Et il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que quelque chose a raté. Et puis, une fois qu'on a dit que c'était complexe, qu'on a du mal à articuler toutes ces dimensions-là, j'ai du mal, moi, à conceptualiser de nouveaux outils, quoi. J'ai du mal à voir qu'est-ce qu'on fait pour réussir à se saisir de cette situation-là, sans tomber, et moi, je vois bien qu'en plus, je suis pris là-dedans, mais... une liste qui viserait à pointer tous les gens qui n'ont pas vu ça, qui ont été aveugles, qui ont été naïfs ou qui continuent de l'être, quoi. Et en même temps, je dois bien regarder, j'ai été frappé même en regardant sur le site thèse.fr ou sur Cairn, si on essaye avec les mots-clés antisémitisme contemporain, donc je mets de côté tout ce qui est études d'antisémitisme, effectivement, jusqu'au XXe siècle tardif, je dois constater qu'il y a effectivement peu de choses. Je dois constater qu'il y a peu de choses, même quand si on essaye d'étudier des choses autour de qu'est-ce que des gens ont pu écrire sur Mohamed Merah. Alors je sais bien que le temps de la publication universitaire est ce qu'il est, mais là on va arriver aux 4 ans après, il n'y a jamais rien où il y a plus de quelques lignes sur Mohamed Merah. On parle toujours de l'affaire Merah, il y a quelques lignes dessus, sont mentionnées les cibles, etc., la dimension antisémite, mais c'est tout. J'ai aussi d'ailleurs constaté que, puisque je me suis mis un peu à lire à la fois la littérature djihadiste et la littérature sur les djihadistes, l'antisémitisme est beaucoup plus présent dans la littérature djihadiste que dans la littérature sur le djihadisme. Qu'il s'agisse de Gilles Kepel, de Roy, de Filiu, elle est toujours mentionnée, hein, elle n'est jamais occultée. Mais je remarque que cette dimension-là, qui me semble pourtant quelque chose sur lequel il faudrait travailler, puisqu'on voit bien que les Juifs ne sont jamais la seule cible des djihadistes, mais qui font toujours partie d'un panel de cibles privilégiées. C'était le cas à Toulouse, c'était le cas à Paris, mais je veux dire, c'était le cas aussi à Bombay en 2008. Donc il y a bien quelque chose là qui me semble particulièrement intéressant. Et toute la difficulté me semble être de comment réussir à aller plus loin que de voir ces articulations difficiles, que de voir ces difficultés qu'il y a à dire, bon ben voilà, on est face à ces outils et ils sont imparfaits, quoi. Et donc j'espère que vous m'aiderez peut-être à y voir plus clair, ou à partir de ces éléments-là, peut-être à structurer quelque chose qui nous permette, je ne sais pas, d'avancer. Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup Samuel. Je n'ai raison que sur un point. Je pense que effectivement c'est passionnant, c'est très intéressant, plus que Casiol. Vous êtes encore debout, donc ça va. Et je pense qu'on va pas manquer de sujets de conversation. Et alors, parmi les différentes choses que vous avez dit, parce que vous avez dit énormément de choses, et en fait vous ne vous êtes pas du tout limité aux sociologues. Mais enfin, si je repars simplement de ce qui faisait le cœur de votre intervention, alors après vous avoir entendu, effectivement, bon, je ne doute absolument pas du fait qu'il y a quelque chose comme un malaise dans la sociologie française contemporaine. Bon, ça me paraît absolument évident, et c'est gros comme une maison, et on en parle depuis pas mal d'années. Mais là, d'après ce que vous dites, et vous êtes sociologue, vous avez fait une thèse de sociologie à l'École d'hautes études en sciences sociales, ça va tellement dans ce sens. Alors si vous voulez, la critique que vous avez faite de Taguieff, je pense que l'histoire du chèque en blanc à Israël, en fait, ça ne porte pas sur la dimension cognitive, disons, de son œuvre. Mais de toute façon, Pierre-André Taguieff, qui est, c'est vous qui l'avez dit, celui qui régulièrement, depuis des années, publie des livres, il en a à peu près une dizaine, etc., etc., de toute façon, il ne se présente pas comme sociologue. Alors donc, si vous voulez, celui qui, en quelque sorte, nous a le plus informé, quelles que soient, si vous voulez, les critiques qu'on puisse lui adresser, sur toute une série de dimensions de l'antisémitisme contemporain, ne se présente pas comme un sociologue. En gros, il pratique, si vous voulez, l'histoire des idées, il travaille sur les idéologies. Bon. Alors maintenant, si on essaye de voir du côté des sociologues, bah, simplement en vous écoutant, hein, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que c'est quand même terrifiant, cette histoire-là. Vous nous avez parlé de Didier Lapeyronie. Moi, je suis très sensible, effectivement, à ce qu'il écrit. D'ailleurs, dans le bouquin que vous avez cité, si ma mémoire est bonne, il dit à un certain moment, Ce n'est pas parce qu'il y a le conflit au Proche-Orient que ces jeunes gens dans les banlieues sont antisémites, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'ils sont antisémites qu'à un certain moment, ils s'emparent de ce conflit. Donc ça, c'est ça, voilà. Bon, moi, je n'étais pas là quand il a fait la conférence. Bon, c'est exactement ce qu'il écrit dans son bouquin. Mais alors, ça, vous l'avez dit, c'est 10 pages. Alors, si vous voulez, c'est pas du tout étonnant. Alors, je peux parler du travail de Michel Vivurca, mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise parce que, comme vous avez fait votre thèse avec lui, ça va vous embêter pour des questions de fidélité. Mais je peux parler librement, vraiment. Non, j'ai été frappé, si vous voulez, en reprenant le bouquin d'Adrien Barrault, par une petite note de bas de page assassine dans laquelle il cite effectivement ce livre sous la direction de Michel Vivurca qui a mobilisé quand même 13 chercheurs ou 14, je ne sais plus combien, pendant 2 ans, ce qui, au passage, fait pas mal d'argent public, etc., etc. Et il dit, voilà, en fait, plus de 600 pages pour apprendre ce que le moindre reportage de journal télévisé suffit à savoir sur la question. Alors, c'est pas le seul à avoir dit ça, puisque je me souviens du compte-rendu que Conan avait fait dans l'Express qui allait dans ce sens-là. C'est pas du tout à Michel Vivurca là que je vise. Le problème, c'est qu'est-ce que la sociologie contemporaine en France nous apprend sur la réalité. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, si vous voulez, le problème, il est à la fois, si vous voulez, cognitif et moral, mais laissons la dimension morale, vous savez, le problème de la dissolution, disons, de la responsabilité dans les causes, ce qu'on reproche beaucoup aux sociologues parfois. On peut laisser ça de côté parce que les sociologues ont toujours la prétention de nous parler de la réalité. Donc, très bien, partons de la réalité. Mais alors, si effectivement les sociologues des quartiers populaires, les sociologues des classes populaires, des quartiers sensibles, etc., passent à côté de cette réalité, c'est curieux. Alors là, il y a quelque chose à penser. Et si vous voulez, on peut tout à fait le penser sans leur faire de procès ou sans tomber dans les panneaux que vous voulez éviter. Vous avez raison, il ne s'agit pas de faire des listes, lui n'a pas vu ceci, mais il y a bel et bien un problème là. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui se passe et qui mérite d'être pensé. Il y a à la fois du négationnisme et de l'inventionnisme, parce que... où est-ce que... Oui, la phrase de Lyogé, puisque vous avez cité Raphaël Lyogé, c'est très étrange. Alors, il se trouve que la semaine dernière, moi, j'étais au jury de thèse d'Amélie Boukobza, qu'on va recevoir en février, et un membre du jury lui a dit, mais enfin, elle est psychologue clinicienne, si vous voulez. Mais enfin, vous devriez vous mettre quand même à lire les sociologues, par exemple, Raphaël Lyogé. Bon, d'accord, mais le problème, c'est que Raphaël Lyogé, effectivement, a ce type de phrases qui sont simplement absurde, parce que quand il dit que, et je cite ce passage, « D'après la Commission consultative des droits de l'homme, les actes antisémites sont en constante baisse depuis ces 10 dernières années », c'est simplement absurde. Et un enfant de 10 ans devrait dire « mais il y a quelque chose qui tourne pas rond ». Et donc, si vous voulez, si par vocation la sociologie doit partir du réel, non pas du monde tel qu'il doit être, mais du monde tel qu'il est, et qu'elle passe complètement à côté du réel, alors, il y a vraiment un problème. Donc, il y a à la fois de l'inventionnisme, ici, et du négationnisme, là. Ça revient à peu près au même. Et alors, vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui ne colle pas du côté des cases? Oui. Vous avez, bon. Alors, en fait, c'est... Bon, il faudrait partir de là. Qu'est-ce qui ne colle pas? Bon. Et là, peut-être que on pourrait interroger pas mal de choses, y compris dans la tradition de l'école française de sociologie ou ce genre de choses, mais ça nous emmènerait un peu loin, mais je pense que ça serait tout à fait intéressant. En tout cas, c'est très intéressant que cet objet-là, en fait, au-delà de l'antisémitisme, nous permette de penser quelque chose qui va bien au-delà et qui est quand même une dimension de la tradition des sciences sociales en France. Je suis sûr que... Martine ?
Pas perçus comme une minorité visible, ils sont intégrés donc dans une partie des gens. Les sociologues ne parlent pas comme ça, mais d'une certaine manière, oui. Donc, ils ne sont pas perçus du côté de la minorité, ils ne sont pas perçus du côté de, quand on parle de diversité, etc. Ils sont plutôt, voilà. Donc, ils échappent à cette réflexion, y compris la réflexion sur le multiculturalisme aussi. Sauf peut-être au Canada, quand même, parce qu'au Canada, au Québec, je veux dire, hein.
des actes de violence produits par, enfin, réalisés, effectués par des musulmans ou des arabes ou des noirs, c'est, on a du mal à penser que des victimes de racisme sont eux-mêmes violents, racistes, etc. Donc on est dans ce même sujet, on est dans le même sujet pour moi. Donc, comment des gens intégrés peuvent être perçus comme, comme victimes de quelque chose alors, pas de discrimination institutionnelle, etc., mais de victimes d'agression. Je pense que ça, c'est la piste à suivre. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, de repenser à ce qui a été à un peu à l'origine de mon travail d'HDR, d'habilitation à la dirigeance sociale. C'est quand, en 2000, j'avais publié un article dans 20e siècle, avant l'intifada, la deuxième intifada et ses effets en France, sur voilà, les juifs sont intégrés, le problème aujourd'hui c'est comment être juif et plus qu'est-ce que c'est être juif et non plus comment être intégré dans une société française, etc. Et donc, et puis surgissent les attentats antisémites et moi je me pose la question, bon Dieu, est-ce que j'ai tout faux? Et après quelques mois ou quelques années, je ne sais plus quand, mais à un moment je me dis, non, j'avais pas faux. Mais c'est une autre couche d'histoire qui apparaît. C'est-à-dire qu'ils sont les juifs sont à la fois intégrés et à la fois victimes d'eux, les deux. Et c'est là qu'on a du mal à associer les deux, parce que dans nos catégories, alors, oui, est-ce que c'est que les catégories de sociologues le sens commun, on peut comprendre à la limite, mais que les sociologues rentrent dans ce sens commun, c'est un problème, en effet. Et l'autre piste qui me semble qu'il faut suivre, c'est la diversité des motifs, j'aime pas trop le terme, mais des angles par lesquels les juifs peuvent être objets de violences ou insultes ou menaces, etc., etc. Que ce soit le conflit israélo-palestinien, que ce soit les juifs ont trop de pouvoir, qui est un vieux schéma, que ce soit ou trop d'argent, il y a une diversité. Et cette diversité-là, elle est aujourd'hui présente. Moi, me semble-t-il, ce sont les deux angles d'entrée qu'il faudrait continuer à suivre.
Je suis d'accord avec toi sur la question de la visibilité. Il est évident qu'ils ne sont pas perçus par la plupart des gens qui travaillent sur des minorités comme une minorité visible. Et en même temps, la grande majorité des attaques sur des personnes, merci beaucoup, se sont déroulées sur des gens qui justement étaient visibles. C'est-à-dire qui sont mis en visibilité parce qu'ils portent une kippa, parce qu'ils sortent d'une école juive ou parce qu'ils sortent de... Donc là, cette question de visibilité vous m'en voudrez de revenir à cet homme, mais dans les dernières pages de son livre, Todd, il s'interroge là-dessus. Parce qu'en fait, je m'étais dit, tiens, Todd, tu fais aussi partie de ceux pour qui la question de l'antisémitisme, c'est une irruption, il ne l'a jamais traitée. Et j'ai vu qu'en fait, il renvoyait une note dans un livre qu'il avait fait sur... c'était « Devenir français », je ne suis pas sûr, un de ses livres dans les années 90, où en fait, il écrit 30-40 pages sur l'antisémitisme, sur l'affaire Dreyfus, sur tout ça, sur... Hein, et dans « Qui est Charlie ?», il dit... Voilà, tiens, voilà, c'est pas du tout l'antisémitisme de l'affaire Dreyfus qui attaquait quelqu'un qui était voilà, dans l'armée, ce côté, un siècle après, c'est impossible d'accepter cette dimension-là de l'émancipation. Il dit non, c'est les juifs visibles qui sont attaqués parce qu'ils sont visibles, qu'il l'écrit comme ça. Il dit d'ailleurs, c'est vraiment fascinant dans le livre, il dit qu'il comprend si des juifs continuent à partir vivre en Israël. Voilà, il va loin. Il dit même qu'il comprend tout à fait pourquoi Benjamin Netanyahou est venu à la manifestation du 11 janvier. Voilà, voilà. Mais après, je pense que n'ayant rien écrit et n'ayant rien dit sur ces questions-là pendant 15 ans, quelque part, il va aussi, il va presque même surajouter sur le silence pour essayer de conjurer la propre situation dans laquelle il se trouve lui-même. Et donc, il dit que lui, il considère que s'il y a beaucoup d'attaques qui sont commises, notamment dans la banlieue parisienne, par des jeunes d'origine maghrébine contre des juifs visibles, il dit, c'est son explication, parce que d'ailleurs, Todd dit, c'est pas le conflit israélo-palestinien, donc je trouve ça aussi intéressant que lui-même dise, non, on se trompe en croyant que c'est le conflit israélo-palestinien, même s'il dit que ça peut être là, un peu en toile de fond, il dit... Il s'attaque à une minorité qui a réussi à la fois à faire partie de la société française et à garder un univers communautaire, traditionnel, religieux, puisque lui, toute l'idée, c'est qu'en plus, si nous sommes tous devenus islamophobes, c'est en raison de l'anomie qui nous guette. C'est-à-dire qu'on est là, dans l'incroyance, dans le vide généralisé, notre vie n'a plus de sens. Il y a des pages qui ne sont pas complètement inintéressantes, hein, malgré toutes les insultes et les excès. Et il dit finalement, les jeunes maghrébins qui mènent ces attaques-là, le font parce qu'ils s'attaquent justement à une réussite et à des gens qui échappent à l'anomie. Alors, On peut trouver ça après plus ou moins bancal, mais je trouvais intéressant que lui essaye de trouver sociologiquement une autre explication, qu'il essaye quand même. Alors, après, le fait est que il ne cite absolument aucun des travaux qui ont été faits sur l'antisémitisme ces 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il dit « personne n'a rien vu, moi je vais dire à la France entière qu'elle ne voit pas l'antisémitisme et que si elle ne le voit pas, c'est aussi parce qu'elle est islamophobe ». Mais évidemment, il se garde bien de citer quelconque collègue qui aurait pu dire ici ou là « tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose ». Mais ça fait que par rapport à la question de la visibilité, évidemment, si on pense en termes de blanc et non-blanc, mais comme, alors, enfin, je ne sais pas malheureusement, où, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, un certain nombre de sociologues pensent dans ces termes-là, quoi. Mais si on sort de la question, si on rentre dans la question juste visibilité, invisibilité, c'est sûr qu'une bonne partie des victimes de l'antisémitisme sont des gens qui sont identifiables comme tels, quoi.
Juste sur le dernier mot, mais visibilité peut s'entendre de plusieurs manières.
Mmh.
C'est visibilité physique.
Oui.
Ils ont des chapeaux. Oui. Ou aussi, ils sont repérables parce que parce qu'ils sont
discriminés. Oui. Non, je suis d'accord.
Ou la marginalité parce que tout d'un coup, ils sont à tel et tel endroit et on ne s'aperçoit pas que tiens, il s'appelle Cohen ou tiens, l'autre s'appelle ceci.
Oui, mais c'est pas. Ouais.
Ils sont là.
Non, mais.
Que quelqu'un, comme Dieu donné, dit tiens, Patrick Cohen, c'est quoi, il s'appelle Cohen.
Ouais.
La visibilité peut être entendue de deux manières, la visibilité physique et l'invisibilité sociale. Mmh.
Non, mais c'est certain qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie telle qu'elle est, qu'elle est souvent entendue sur la...
Pardon,
c'est la
même. Ça peut se croire que...
Martine, pardon, la visibilité,
pour moi, il faut distinguer les deux.
Même si ça peut être la même, se recouper, mais ça peut ne pas se recouper complètement, à mon avis. Et justement, ça prend d'autres dimensions.
Ce serait quoi une visibilité non sociale ?
Mais non, mais attends, je comprends ce que tu dis, mais ils font partie de la majorité, et en même temps, ils sont très différents, visiblement, pas comme... toi ou moi, mais comme d'autres, avec des chapeaux ronds, voilà, si je peux dire, pour rigoler. Mais c'est pas la même chose, quand même. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Et parce que ceux qui se font attaquer, en effet, c'est Michel Burkaladé aussi, mais c'est surtout ceux-là, mais pas que. Enfin, ou ceux qui sortent d'une école juive, ou ceux qui sortent d'une synagogue, ou d'autres choses, quoi. Voilà, donc, ils sont visibles d'une certaine manière. Il y a un signe visible, si on peut dire.
Oui, moi j'ai trouvé, bon j'étais d'accord évidemment avec tout ce que vous avez dit, mais je vous trouve bien indulgent avec les sociologues, c'est normal, vous êtes sociologue, mais moi en tant que philosophe et politologue, évidemment je ne suis pas sociologue et je reproche en effet aux sociologues de ne pas être sensible du tout à la complexité, hein, ça effectivement, si ça ne rentre pas dans une case, ça ne peut pas rentrer dans plusieurs cases à la fois, donc évidemment c'est un peu gênant, mais je pense que le problème n'est évidemment pas là. C'est pas un problème d'intelligence ni de capacité à capter la complexité du phénomène de l'antisémitisme, qui a été très divers à travers l'histoire. Nous, en Amérique latine, par exemple, Curitiba, la ville blanche au Brésil, c'est une ville juive. Donc le juif est assimilé au blanc, et le racisme anti-blanc aujourd'hui, bon, donc tout ça est quelque chose d'assez simple à capter. Donc je pense que des sociologues seraient capables aussi de le capter. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas de la sociologie en tant que telle, il est politique. Il est de l'invasion des rouges-bruns dans la sociologie et partout dans les sciences sociales en général. Et les rouges-bruns, c'est quoi ? C'est des antisémites, les rouges-bruns. Et dès que vous prononcez le mot antisémitisme, vous êtes marqué, en effet, du signe juif. Et pour les antisémites, ben, c'est pas bien d'être juif. Et donc, même lorsque vous n'êtes pas juif, enfin reconnu par les juifs, on vous considère comme tel et vous êtes discriminé comme tel dans la discipline. Hein ? L'antisémitisme, il est au cœur de la sociologie française. Et ça, c'est un élément fondamental. Et pourquoi je dis rouge-brun ? Parce qu'il y a une tradition de connivence entre le bolchevisme et l'antisémitisme, depuis Bakou jusqu'à la création de l'OLP par le KGB en 64, etc., etc. Et aujourd'hui, on a en effet des avatars du stalinisme qui reprennent cette tradition antisémite en la croisant avec un militantisme pro-arabe, pro-musulman, pro-tout ce que vous voulez. Et bien sûr que la question est liée, bien entendu. Mais je m'arrête là.
On prend peut-être plusieurs questions.
Oui, est-ce que dans les études qui sont faites, l'utilisation du mot juif, le groupe juif que vous avez utilisé à plusieurs reprises, la communauté juive, est-ce que somme toute cette idée-là n'accrédite-t-elle pas la notion que, ah oui, les juifs, c'est une seule et même chose, une petite troupe bien disciplinée qui obéit au CRIF, et d'abord le CRIF, c'est très institutionnel parce que le président de la République vient dîner. Est-ce que même l'idée de juif, groupe juif, ne crédibilise pas cette idée, ah oui, le vote juif comme ci ou le vote juif comme ça, et finalement oublie complètement la diversité très forte de ce groupe entre un groupe de séfarades, de Lelubavitch et monsieur XYZ, c'est pas tout à fait la même chose. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est qu'il me semble qu'une bonne partie des analyses que vous avez citées, on les trouve dans les territoires perdus de la République. Dans ce petit bouquin qui a été réédité récemment avec une nouvelle préface, on trouve beaucoup de choses, justement. Le vocabulaire différencié que pour appartenir au bon groupe, on doit dire les juifs, c'est comme si le sale juif, c'est une manière de parler, comme on dit putain à tout bout de champ sans se rendre compte de ce que ça signifie. Et je pense que là, une bonne partie de l'analyse, tant du côté des élèves que du côté des enseignants, est contenu dans ce livre dont en particulier la postface récente qui a été écrite est extraordinairement terrifiante. Autre chose aussi, est-ce que dans les études qui sont faites, on demande aux gens qui répondent à la question est-ce que les juifs c'est des gens comme tout le monde, etc., est-ce que on leur demande aussi s'ils connaissent un juif et si oui, lequel? Parce qu'effectivement, s'ils sont, je ne sais pas, moi, à Sarcelles ou dans le 16e, ils ne connaissent peut-être pas forcément quelqu'un qui est des gens qui sont substituables. Et est-ce que pour eux, effectivement, on a tendance à dire, bah oui, moi j'en connais un d'abord, il est comme ci, comme ça, et on a tendance à considérer qu'ils sont tous pareils. Et donc je reviens à mon premier commentaire, c'est-à-dire il y a une diversité que je crains les sciences sociales n'ont pas parfaitement utilisée.
Merci. Je voudrais d'abord dire que j'ai été très très intéressée par tout ce que vous avez dit et que je trouve que vous avez fait une analyse très très importante qui j'espère va se prolonger et permettra de faire avancer les choses sur ce plan-là. Vraiment, c'était très intéressant. Et donc, je voudrais souligner le fait que vous avez dit, il y a très peu de terrain, il y a très peu d'enquêtes. Il y a celle de Didier Lapéroni qui est un petit peu par hasard, qui était un peu un sous-produit d'autre chose. Et quand il parle de dimension horizontale et d'un antisémitisme sans juif, évidemment, il ne connaît pas d'un antisémitisme sans juif, oui, et sans antisémite. Mais il ne connaît pas l'histoire, c'est toute l'histoire. Parce que dans l'histoire, dans l'antijudaïsme pendant des millénaires, c'était sans juifs, les juifs étaient dans les ghettos, les gens ne les connaissaient pas. Il y a toute cette dimension imaginaire, cette double dimension symbolique et imaginaire et qui se perpétue actuellement et qu'on oublie toujours quand on parle de l'antisémitisme. C'est d'abord un énorme imaginaire très profondément ancré dans la conscience collective, dans la conscience individuelle et qui a été nourri par... Bon, par la religion, bien sûr, depuis l'enfance, et par le langage, et par la sémantique, et que l'on trouve que l'antisémitisme le plus important était dans les sondages, c'était en Espagne, où il n'y avait plus de juifs depuis 5 siècles. Et c'est donc c'est tout un imaginaire qui associe, il y a le diable, il y a le bon Dieu, il y a le bien, il y a le mal, le juif, c'est le mal. Et donc c'est tout un héritage, et c'est la même chose qui se passe dans les banlieues. Donc c'est pas à cause de ça qu'on va dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Hein. Voilà, je vois que c'est un point très important.
Je lui tirerai pas dessus. Voilà. Pour dire les choses, c'est-à-dire que et c'est vrai que alors lui, je pense qu'après, il faudrait que je revérifie où il est allé. Ça ne prétend pas non plus à l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il est allé voir un certain nombre de lieux où il a constaté, comme ça, effectivement, dans le langage courant, tous ces termes péjoratifs à propos des juifs. Qu'après, très souvent, il va aussi lier. Il verra que très souvent, ceux qui vont employer ces termes auront aussi auront un vocabulaire qui sera sexiste, qui sera homophobe, enfin, une connexion notamment sur tous les thèmes de la pureté. Après, c'est vrai que ça ne peut pas se généraliser partout, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où vous avez de l'antisémitisme dans le vocabulaire et dans les actes, et où vous avez des juifs. Alors après, quel est le degré d'interaction que les gens ont entre eux à Créteil, à Marseille ou à Sarcelles, c'est un autre sujet, mais je pense qu'effectivement ça s'applique au terrain qu'il a pu étudier, et pas à tous les terrains. Et il est évident que lui n'a pas étudié, enfin en tout cas c'est pas référé à toute la thématique de l'antisémitisme sans juif, c'est-à-dire toute la dimension imaginaire. Parce que lui, voilà, il constate qu'il a observé ça, il en a ensuite effectivement fait quelques articles. Il apparaît aussi à plusieurs reprises dans le documentaire qui était tiré des territoires perdus de la République, là, le documentaire qui était passé fin octobre. Ça me permet de faire le lien. J'ai pas effectivement cité les territoires perdus de la République. Je ne le classe pas. Il y a toute une série de textes et de choses qui ont pu être publiées qui ne sont pas à proprement parler des travaux universitaires, ni dans leur forme, ni dans leur publication, et qui sont en même temps des sources. Effectivement, je ne les ai pas cités. En plus, les territoires perdus de la République, qui avaient eu ce statut un peu particulier au début, où tout le monde savait qui avait dirigé l'enquête, mais il y avait un autre nom. Enfin voilà, cette espèce de système qui est même reproduit dans la nouvelle édition. C'est un peu. C'est toujours Emmanuel Brenner, mais la postface est de Ben Soussan. Il y a quelque chose d'un. Oui, non, mais tout le monde le sait, mais il y a un côté un peu comique à garder le nom. Enfin bon, Mais. Et c'est sûr qu'il y a eu une résistance. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec le discours que lui peut encore avoir sur le silence assourdissant. Au sens où je suis d'accord que dans le monde des sciences sociales, il y a eu un silence autour des territoires perdus de la République. En même moment, moi, dans mon souvenir, Luc Ferry, il avait cité le livre, je crois qu'il l'avait même brandi pendant une conférence de presse. Il était ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faut se méfier un peu sur le côté. Voilà, et puis dans mon souvenir, il y avait eu les bonnes pages dans l'Express et tout. Alors après, il y avait eu des accueils contrastés, il y avait eu des résistances. On est d'accord sur tout ça, mais il faut parfois un peu. Et je comprends cette situation de dire on vous l'avait bien dit, vous n'avez rien vu, regardez maintenant, ça vous saute au visage. Mais c'est pour ça que je disais que sur la rhétorique de l'occultation, il faut faire attention. Les questions de la CNCDH, on ne demande pas aux gens s'ils connaissent un noir, un juif, un ceci, un cela. C'est ce qui fait à la fois l'intérêt et toutes les limites de ces travaux et ensuite de ce que Nona Meyer et d'autres peuvent en faire, c'est que généralement la grille de questions, elle n'a pas bougé depuis des années et c'est assez volontaire. C'est une façon de dire bon bah ça permet de continuer à étudier les mêmes choses et c'est vraiment en fait pour essayer de voir est-ce que les gens acceptent des groupes qui sont différents. Alors je pense qu'on peut finir par trouver ça un peu naïf dans certaines mesures. Je trouve que ça continue de dire quelque chose effectivement de la société française dans son ensemble, même si je pense que notamment par rapport aux défis qu'on constate là, qu'est-ce qu'on fait avec. Puis moi, même la question en fait, est-ce que les juifs sont des Français comme les autres ou est-ce que les noirs, je vois bien ce que ça signifie. Et en même temps, pour moi, il est évident, non, les juifs ne sont pas des Français comme les autres, parce que tous les Français ne sont pas juifs. Il y a une série de réflexions qu'on pourrait avoir pour n'importe quel groupe qui se trouve un peu compliquée. Mais cette question, elle a quand même du sens parce qu'elle permet de mesurer. Elle permet de mesurer effectivement l'acceptation, le sentiment d'appartenance et des éléments comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi ce que vous vouliez dire sur les termes juifs, groupes juifs, communautés juives. Par exemple, dans ce que j'ai pu écrire sur le CRIF, je fais toujours attention, je parle de la communauté juive organisée. Voilà. Et je la définis en disant, bah, la communauté juive organisée, c'est l'ensemble des organisations qui se définissent comme juives, etc., etc. Et tout en sachant que c'est à la fois une évidence, et c'est peut-être insuffisant de dire que, bah, oui, il est évident qu'il y a une diversité d'opinions, de pratiques, qui effectivement ne se retrouvera jamais, mais de toute façon c'est impossible, dans la parole d'une personne. Et la parole du CRIF s'étant, depuis les années 80 avec Théo Klein, beaucoup personnalisée, c'est impossible pour une personne de pouvoir être la diversité du judaïsme. Et évidemment, dans le rapport qu'il y a avec l'État, les choses sont... vont pouvoir comme ça un peu assécher cette diversité. Après, il me semble, mais je lis une presse essentiellement bien pensante, hein, donc il me semble qu'il y a plein de paroles en dehors de celles du CRIF qu'on peut entendre. J'ai l'impression que quelqu'un comme, je sais pas, le rabbin Orviller, je la lis et je l'entends régulièrement. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un paysage un peu plus... mais c'est vrai que pour les questions qui sont posées par exemple par la CNCDH, on dit les juifs, c'est les, comme on dit les noirs, on dit tout ça, quoi. Parce que je pense que si on faisait un discours un peu sociologique, si on disait que pensez-vous que la diversité du judaïsme français, on rentre dans une question qu'on pose pas des questions comme ça aux gens, quoi. Et l'autre risque, c'est sinon d'avoir le discours qu'on emploie souvent quand on travaille sur la discrimination, c'est qu'on va dire les personnes ou les individus perçus comme juifs ça fait bien et on voit ce que ça veut dire, mais si on pose ça comme question, les gens ils se disent mais de quoi vous me parlez, quoi.
Oui, la seule chose que je voulais dire par là, c'était que finalement dans l'esprit d'un certain nombre de gens un peu primaires, et je pense au ravisseur d'Ilan Halimi, c'était on va prendre ce bonhomme-là et de toute façon ils vont payer parce qu'ils sont tous ils serrent les coudes, etc. Et en fait je dis simplement que ça permet d'accréditer l'idée d'une communauté monolithique. Mais je comprends bien qu'on ne peut pas avoir des périphrases de 3 km pour dire ce qu'on veut dire sans le dire tout en le nommant et sans le préciser.
On est d'accord.
Juste, je voudrais juste, je te donne la parole après. Alain, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la question après la remarque de Claudine, parce que... moi aussi, j'ai tiqué, effectivement, en lisant Didier Lapéronie exactement là-dessus, et c'est pas du tout pour le critiquer, parce qu'en l'occurrence, je trouve que c'est un très bon travail, ne serait-ce que quand il, par exemple, quand il repère la question de l'antisémitisme présente dans le langage, c'est quand même quelque chose qui est absolument crucial, et ça attire notre attention sur un phénomène de signification partagée, donc, de culture, donc c'est très très bien. Mais c'est vrai que relever comme ça l'étonnement, lorsqu'il dit, voilà, c'est curieux parce qu'ils n'ont jamais vu un juif de leur vie, parfois, et malgré tout, ils sont antisémites. Alors c'est vrai que c'est une question, alors sans doute un peu... peut-être pas naïve, mais en tout cas très rhétorique, parce qu'en réalité, on connaît ça par cœur. D'abord, dans l'antisémitisme, on a affaire à un phénomène de croyance. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que la croyance aurait besoin d'une expérience pour fonctionner. J'ai presque tendance à penser le contraire. Je pense que moins on a accès à l'expérience, et plus il y a de croyance, en quelque sorte. Donc, et puis, dans ce phénomène d'antisémitisme sans juif, si vous voulez, il y a... bon, d'abord, effectivement, l'expérience historique est pleine de ça, à l'Est, à l'Ouest, en Angleterre en 1290, à l'Est de l'Europe après 45, etc. Bon, mais je pense qu'il faut distinguer souvent, quand on réfléchit au racisme, à deux logiques. Enfin, on peut dire, en gros, X est arabe, donc délinquant, et X est délinquant, donc arabe. Et on peut, si vous voulez... parler de la haine des juifs et puis de la judaïsation des objets de haine. Et si on procède à partir du deuxième qui implique évidemment, qui présuppose que l'évidence du premier soit établie, disons, dans une société, qu'elle soit posée culturellement, alors on peut imaginer qu'on judaïse en permanence tous les objets de haine et notamment, à commencer peut-être, par tous les adversaires politiques. Et après tout, ça, c'est des choses qu'on connaît aussi, je veux dire, dans toutes les cultures communautaires du politique. Alors que ça soit dans le monde arabe, Bernard Lewis le décrit très très bien, je veux dire, l'adversaire est nécessairement juif. Bon. Et puis on a vu ça pendant les révolutions arabes récemment, il y avait des étoiles de David. Bon. Et puis on connaît ça à l'Est de l'Europe aussi. C'est une rhétorique quand même qui est répertorié, mais disons que ça attire l'attention sur le fait que, et là pour dire un mot à René, ta diatribe contre les sociologues à partir de la philo et de la science politique, je te mets au défi de me citer des livres récents en sciences politiques qui porteraient sur la question des croyances et des mythes. C'est un objet que la science politique en France ignore totalement. Et c'est complètement bizarre. Oui, toi, tu... Bon, moi... Mais non, mais moi, ce que... Ok, toi, tu leur fais un procès politique, mais moi, je pense qu'on peut penser ça à l'intérieur des disciplines. Pourquoi est-ce que, y compris en France, après tout tellement marqué par la sociologie durkheimienne, qui a fait des représentations collectives vraiment le centre même de son étude, comment se fait-il qu'à un certain moment, on n'ait pas les moyens d'explorer ça ? Alors moi, je pense qu'on peut tout à fait tirer ce fil, parce que après, quand vous allez voir chez Durkheim, la manière dont il traite les croyances, dans un premier temps, il vous dit la religion, c'est pas du tout une illusion, etc., c'est sérieux, et d'ailleurs, aucun phénomène social durable n'est une illusion. Mais en même temps, in fine, la croyance religieuse, lorsque les gens croient, ils ne savent pas à quoi ils croient. Autrement dit, in fine, à l'arrivée, ils sont quand même aliénés, ces gens. Bon. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à penser de ce côté-là, sur le fait qu'on n'arrive pas à attraper et qu'il y ait si peu de choses sur la croyance, sur l'imaginaire, sur les mythes, et plus largement sur la culture, puisque quand on parle de culture dans la sociologie française, on se fait dégommer aussi assez rapidement.
Je crois que...
Ah, pardon. Tu as évoqué le sujet que je voulais rapidement évoquer. Non, franchement, ce n'est pas enregistré, donc ce n'est pas nécessaire.
Si, c'est enregistré.
Ah, pardon. Alors oui, je prends le micro. Alors.
Il marche, là ? Oui, il marche. Oui.
Non, je voulais aussi répondre à René, un peu à toi, parce que tu n'avais pas été très gentil avec les sociologues non plus. Je ne veux pas faire une défense corporatiste des sociologies. En plus, je ne me considère pas comme sociologue. Mais bon, Durkheim, je viens de citer, Mauss, Bouglé, Alvac, Simian... et Weber, Boudon n'ont pas écrit que des imbécilités sur ces questions-là, notamment Boudon sur la question de la croyance et des croyances irrationnelles. Je ne dis pas qu'aujourd'hui les sociologues sont à la hauteur de ceux que j'ai cités. Ça, bien évidemment. Mais néanmoins, les armes de la sociologie permettent, me semble-t-il, un tant soit peu, de penser la complexité du réel.
Le malaise, il est contemporain.
Le malaise, il est contemporain. Je suis d'accord.
Ah oui.
Je suis d'accord. D'accord. Non, enfin, il y a encore des gens qui sont des élèves de Boudon, même si Boudon est méconnu dans certains
cercles.
Oui, par exemple. Alors, je voulais ensuite dire une petite chose, mais franchement, c'est une exploration. J'ai pas franchement réfléchi. Mais sur la question de la visibilité, parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec la thèse de développer dans un livre très ancien, celui de Mémy. Held, Mokor, autant que je me souvienne, hein, un très vieux livre, où grosso modo, l'antisémitisme s'en prenait aux juifs vagues à la Drummond. Hein, c'est ça l'objet fondamental de l'antisémitisme, c'est celui qu'on ne peut pas reconnaître. Or, aujourd'hui, c'est vrai que, et Samuel l'a rappelé, les actes antisémites, ce sont les juifs qu'on peut repérer. Mais peut-être est-ce parce que faute de grives, on mange des merles, ou faute de merles, on mange des grives, je ne sais jamais, j'ai demandé à Isabelle, je ne sais plus quel sens, c'est faute de merles, on mange des grives. Enfin bon, faute de grippe, on mange des merles. Donc en fait, les violences contre les juifs repérables, les juifs visibles, c'est parce que dans un État où précisément l'antisémitisme, comme vous l'avez rappelé, est considéré comme devant être combattu, eh bien, on ne peut s'en prendre qu'à ceux qui ne bénéficient pas de ces protections, au moins à un moment donné. Donc c'est pas tout à fait incompatible de dire qu'on s'en prend aux juifs visibles parce que c'est ce qu'on a sous la main et dire que malgré tout la spécificité fondamentale de l'antisémitisme par rapport aux autres racismes, c'est qu'on ne discerne pas le juif.
Il y avait une question là, il y avait Brigitte Stora.
Oui, je crois qu'il faudrait faire une distinction dans l'antisémitisme entre l'antisémitisme de la bêtise et de la jalousie. Moi, Mira, c'est de la jalousie et de la bêtise. Moi, quand je vois des types comme ça, si vous voulez, c'est de la jalousie et de la bêtise. Les juifs, justement, ceux qui sont antisémites et qui ne voient pas de juifs, c'est exactement la même chose, si vous voulez, le même état d'esprit qu'on a eu en Suisse lors du référendum sur les étrangers. Ça a été très amusant parce que toutes les campagnes où il n'y a pas d'étrangers, ils ont voté pour le texte. Et Genève, où il y a 40% d'étrangers, ils ont voté contre le texte. Pourquoi ? Parce que les Genevois, ils ont compris, si vous voulez, dans le milieu économique, ils ont compris qu'ils avaient besoin de la force des étrangers. Dans les campagnes où ils n'ont pas d'étrangers, ils ont voté pour le texte. Bon, pour moi, c'est le même phénomène. C'est de la bêtise, de la jalousie, c'est autre chose. Et bien, ce qui est plus intéressant, c'est l'antisémitisme dans des milieux plus intellectuels, plus cultivés. Là, je rejoins madame. C'est plutôt celui-là qui est intéressant, parce que faire de la sociologie sur des gens qui ont été méchants et jaloux, qu'est-ce que vous voulez raconter là-dessus?
Non, en fait, moi, j'aurais pas... Oh, je pense que...
C'est l'autre qui est plus intéressant.
Oui, alors... D'abord, je pense que les choses peuvent se rencontrer. C'est-à-dire que, attendez, une seconde, plusieurs choses. D'abord, attendez. Je pense que on a tort de dire, et c'est parfois le discours qu'on a sur les djihadistes, y compris sur ceux du 13 novembre. Je me rappelle, j'écoutais Guillaume Herner, sociologue de formation, j'écoutais un matin et qui disait, c'était après l'assaut à Saint-Denis qui a permis de tuer un certain nombre des terroristes, il disait voilà, on a parlé du cerveau de l'opération, du cerveau d'Abaoud, etc. On ne devrait pas, sur le côté, on doit les mépriser intellectuellement. Lui, peut-être, c'est-à-dire sur le fait qu'on ne doit pas les prendre, mais la réalité, c'est que il y a une idéologie, il y a un discours, et qu'on peut pas juste les considérer comme dans leur bêtise. C'est-à-dire que, évidemment, Mohamed Merah, Mehdi Lemouche et tous les autres ne sont pas des intellectuels, mais il y a un discours, je ne peux pas vous conseiller de les télécharger, parce qu'en plus légalement, c'est vite pour le coup casse-gueule. Mais la littérature djihadiste est quelque chose qui dit les choses par A plus B, qui sont les cibles et pourquoi, avec un discours. Et là, j'en viens à la jonction avec les autres gens, c'est que vous avez aujourd'hui dans la littérature djihadiste Drumont qui revient. C'est-à-dire que, y compris par exemple dans ce qu'a déclaré l'État islamique dans son dernier texte il y a quelques jours, où il dit il faut tuer les enseignants, il faut frapper l'éducation nationale, il est dit il faut frapper l'éducation nationale parce que c'est un projet judéo-maçon. Et parce que ce projet judéo-maçon est là pour détruire les civilisations, etc., etc. Donc c'est assez fascinant que dans un projet transnational islamiste, vous avez la récupération du discours de Drumont, et comme vous le savez, à part ça, la rhétorique de Drumont, elle est réactivée depuis quelques années chez Alain Soral. Et Alain Soral, il touche peut-être une série des cervelés, mais quand on voit les livres, qu'il vend ses livres et tout ça, on sait aussi que vous avez des gens qui ont fait des études, qui ont fait tout ça, et des fois on peut être confronté ça même avec des étudiants, on voit que ça, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est là. Ça ne veut pas dire que les assassins ont une conscience politique, non, on ne sait pas, évidemment, c'est pas la bande à Bader, mais je pense que c'est aussi une erreur de les renvoyer comme étant simplement des zombies de banlieue. Je pense qu'on se trompe, parce que je comprends en plus qu'on veut, c'est une façon aussi de se rassurer, de se dire qu'on a affaire à des crétins. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur.
Il y a des convertis qui sont là de banlieue, pas parmi les assassins.
Oui, non, mais il y a des
actuellement qui les amènent probablement. Et puis il y a aussi le problème économique.
Excusez-moi. Je crois que les humains ne changent pas à travers les siècles, et dès qu'il y a des problèmes économiques qui ressortent énormes, qu'une société va mal, vous avez les faiblesses, les défauts des uns, etc., et les mauvais côtés de société qui ressortent, et finalement c'est toujours les mêmes, avec juste la mode et l'époque qui changent l'expression.
Ouais, même si en tout cas dans les
tout ça c'est la faute de Saint Paul.
Ah, bon, alors voilà, on va pas au moins. On va, oui. Je ne vais pas rentrer sur cette thématique-là maintenant.
Moi, je voulais dire que je pense que l'antisémitisme, ça relève du fantasme, et que par définition, c'est pas du côté du réel, enfin de la sociologie, qu'on peut l'attraper. Je pense qu'il faut peut-être se promener du côté plutôt de la philosophie ou de la psychanalyse, voire de la Bible, pour y comprendre un peu mieux. Mais encore une fois, sur ce fantasme, on peut quand même se demander pourquoi justement la sociologie n'arrive pas jamais à... vous parliez des minorités visibles. C'est assez comique, parce que finalement, en France, il y a eu les Israélites français, et puis les Yékés, les Allemands, ensuite les Polonais, les Séfarades. Bon, tous finalement sont dominateurs au final. C'est-à-dire, y compris ceux qui viennent exactement des mêmes pays, qui ont vécu les mêmes situations. Je pense aux Juifs du Maroc, par exemple, qui n'ont jamais été français, qui sont venus immigrer, etc. Qui sont peut-être un peu plus blancs, enfin, c'est discutable. Donc pourquoi, et je me demande si ce n'est pas aussi une question qui ne devrait pas seulement être de l'ordre de l'étonnement, excusez-moi, c'est ce que j'ai senti dans votre discours, wow, mais peut-être de l'interpellation. Voilà, de l'interpellation, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, la sociologie recoupe quelque chose de l'ordre du fantasme, à savoir que les Juifs sont toujours du côté de la domination, du privilège. Et ça nous met de toute façon sur la matrice de l'antisémitisme, qui s'est toujours pensée anti-hégémonique. Y compris le nazisme s'est vécu anti-hégémonique. Bon.
Moi, je profite du micro. Sur la question, finalement, on en a assez peu parlé, de l'antisionisme ou du conflit israélo-palestinien. La sociologie n'est pas une science expérimentale, donc c'est un peu vain de dire s'il y avait la paix tout d'un coup, qu'est-ce qui se passerait? Mais on aimerait bien le savoir, en fait. Mais la question, je trouve que c'est un peu bizarre de dire quand il y a des problèmes ou des échauffements de la situation au Proche-Orient, il n'y a pas plus ou il y a plus. Enfin bon. Alors qu'on est dans un conflit qui est structurel aujourd'hui et qui est dans aussi une remise en question de l'existence même d'Israël et non pas de la question de 1967. Enfin, je crois que voilà, juste une remarque sur ça. Est-ce qu'il y a des
Alors c'est oui, parce qu'en peu de mots finalement tu envoies sur beaucoup de sujets à la fois, donc c'est délicat de répondre sans. En tout cas, moi, ce qui me semble à la fois intéressant, c'est le fait qu'on a pu voir effectivement qu'il y avait des hausses par rapport aux des hausses de violence pour des épisodes précis, puis qu'après, on a observé que non, quelque chose pouvait continuer, même si la situation n'était pas une situation de violence. Après, le problème aussi méthodologique qu'on a, c'est que l'essentiel des chiffres qu'on a, c'est à partir de la fin des années 80 et dans les années 90. Et les années 90 sont une illusion ou une parenthèse, hein, avec des gens qui ont cru, d'autres qui n'ont pas cru. Mais je me rappelle, j'étais petit sur mon canapé le 13 septembre 1993, je me rappelle, effectivement. Et puis je me rappelle les années suivantes, avec en plus un monde qui semblait, si je puis dire, pas simple, mais un monde où il y avait le processus de Pélo-Slo, avec ses revirements, etc. Mais quelque chose qui donnait l'impression que. Alors que depuis 15 ans, il n'y a aucun moment. Si, des fois, il y a des négociations ici et là, mais il n'y a jamais cette sensation-là. Parce que pendant tout Oslo, quelles que soient les violences d'ailleurs qui étaient commises de part et d'autre, vous aviez à la télé des Israéliens et des Palestiniens qui se rencontraient très régulièrement. C'est-à-dire que même les gens qui étaient contre Oslo, ils voyaient Arafat qui serrait la pince d'un tel et d'un tel qui était au gouvernement israélien. Donc il y avait quand même cette atmosphère-là. Et le problème, c'est qu'effectivement, on est tenté de comparer, et là je l'ai même fait par rapport aux chiffres, on compare par rapport à les années 90, mais. Qu'est-ce qu'elle nous indique, en fait, les années 90? Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est qu'immédiatement, en septembre-octobre 2000, quelque chose a démarré et qu'on n'est jamais revenu à un statu quo ante. Et avec l'idée que finalement, je ne veux pas dire qu'on y reviendra jamais, ça ne veut pas dire quelque chose. Mais voilà. Et donc, il y a quand même quelque chose sur qu'est-ce qui fait que ça a démarré si vite, si fort, alors qu'il y avait eu d'autres épisodes de violence, y compris pendant le processus d'Oslo, qui n'avaient rien déclenché. À ma connaissance, par exemple, le massacre commis par Baruch Goldstein à Hébron, où ces 30 Palestiniens qui sont quand même massacrés dans une mosquée, ça ne donne rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a. Alors, pourtant, il y avait eu des choses au moment de la guerre du Golfe. Hein, donc, après, il y a aussi l'association, y compris, il y a un conflit au Moyen-Orient, mais qui ne concerne pas directement Israël. Certes, des scuds étaient tirés sur Tel Aviv, mais la première guerre du Golfe n'est pas une guerre israélo-arabe à proprement parler. C'est même une situation plus complexe. Vous avez un pays arabe qui va en attaquer d'autres et aussi attaquer Israël. Donc là, par rapport à ça, on ne sait pas très bien comment faire. Et en même temps, et là, je pense qu'un certain nombre de gens ne seront pas d'accord avec moi, je pense que la façon dont notamment les institutions juives ont pu lier dans leur discours en permanence ces dimensions-là, la défense d'Israël et la critique de l'antisémitisme, je pense qu'en termes de discours, ce n'est pas efficace. Et je pense que le brouillage, mais ça pourrait être une grande question, de systématiquement dire l'antisionisme est un antisémitisme, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, je ne sais pas très bien ce qu'on recoupe par l'antisionisme. Si quelqu'un est pour l'État binational, moi je ne suis pas pour l'État binational, mais je ne considère pas qu'on peut le labelliser comme un antisémite. Je ne considère pas que ça puisse tenir la route. Donc, on est face à cette difficulté-là, et elle est là. Elle est là, et je pense qu'on ne peut pas dire... tous, évidemment, je crois que je l'ai bien montré, quand Laurent Mukeli et les autres disent « Ah non, non, on ne peut pas dire que c'est de l'antisémitisme parce que, en fait, c'est juste une réaction par rapport au conflit israélo-palestinien. » Non, quand quelqu'un lance une cocktail Molotov sur une synagogue, il ne croit pas qu'il atteint l'État d'Israël. C'est voilà. Mais je trouve que sur les mots, là, c'est devenu... C'est pas simple. Surtout qu'en plus, même dans les définitions, il y a des organisations juives qui vont dire quand un drapeau israélien est brûlé, c'est un acte antisémite. Pour la police, quelqu'un qui brûle un drapeau israélien, c'est pas un acte antisémite. Après, si quelqu'un va brûler un drapeau israélien devant l'hypercachère, ça n'a plus la même signification. Donc on est pris dans des choses qui sont délicates. Et sur lesquels je n'ai pas d'avis définitif.
Mais là, sur le dernier point, de toute façon, c'est à nous de construire les significations, je veux dire de construire un objet. C'est à nous, à un certain moment, sans être à la remorque ni de ce que dit une association juive, ni de ce que dit la loi même, parce que, enfin, un concept juridique, disons, d'antisémitisme, c'est à nous de construire un objet qui est l'antisémitisme et de réfléchir ensuite dessus. Mais juste sur un mot par rapport à ce que disait Brigitte Stora, parce que est-ce qu'il faut accepter que les sciences sociales n'aient rien à dire sur les fantasmes d'une société ? Bon, alors, bon. On peut l'accepter d'avance en disant effectivement. Est-ce ouais.
Qu'elle les rejoigne.
Alors ça, c'est encore une autre question. Ouais. Ouais, non, j'entends. Oui, mais ça, j'ai entendu. Mais ça, c'est la deuxième chose. Alors effectivement, ça, c'est très embêtant. Donc ça devient. Effectivement, il faudrait travailler là-dessus. Mais par ailleurs, si je tire de nouveau le fil, disons, de la tradition des sciences sociales, pourquoi est-ce que des sciences sociales qui ont. Quand même, pour vocation d'étudier des phénomènes qui se passent dans une société, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se donner les moyens à un certain moment d'attraper des subjectivités sociales ? De nouveau, je reviens sur la piste de l'École française de sociologie, qui passe très souvent et par méthode à côté des subjectivités. Alors, si elle ne se donne pas les moyens de saisir les subjectivités comme relevant de ce qu'on constate à un certain moment, il y a bien des subjectivités qui ont des effets... comme les croyances produisent des effets, etc., etc. Alors, si on passe à côté de ça, si on ne se donne pas les moyens de saisir ça, bon, on risque de passer à côté de beaucoup de choses qui se passent dans les dites sociétés. J'ai presque tendance à penser qu'on passe à côté de l'essentiel dans ce cas-là. Pourquoi ?
Mais les sociologues sont pas des gens qui étiquettent.
Non, il ne s'agit pas d'étiqueter. Il s'agit de...
Il y a des croyances, ouais, mais... il y a des fantasmes.
Ce sont les sociologues ici, je crois que... il faut peut-être remettre les choses à leur place. Hein. Les sociologues travaillent sur les mythes, ils travaillent sur les croyances, ils travaillent sur les imaginaires sociaux. Ça, c'est un objet tout à fait légitime de la sociologie. Donc, voilà, je crois que...
Non, mais c'est pas la question. Les sociologues en général, c'est qu'au sein de la sociologie, il y a des luttes de pouvoir.
Comme dans tous les champs sociaux,
tu vois. On va.
Vous êtes fatigué là.
Ouais.
Vous voulez dire quelque chose ?
Non, non. Est-ce qu'il y a eu des travaux où on aurait mis en parallèle l'antisémitisme et les périodes de crise économique ? Est-ce que ça a été fait ?
Certainement.
Oui. Certainement. Ah oui, parce que si vous voulez, la mise en lien de l'antisémitisme avec la crise en tant que telle, alors là, vous avez vraiment des kilomètres de bibliothèque là-dessus. C'est quasiment la tradition dominante. Hein.
Donc,
bah bien sûr, bah bien sûr. Bah vous, écoutez, prenez la thèse de Yves Chevalier sur le bouc émissaire, vous verrez, c'est très largement développé. Écoutez, je pense qu'il y a pas mal de pistes qui se sont dégagées. On va les poursuivre dans les séminaires à venir. Merci de votre présence et je vous souhaite une bonne année.
Bonne fête.
Ah oui, bien sûr, nous allons en salle 255 pour le pot, pour ceux qui ont le temps.